Voilà encore une des belles fêtes du mois de juin, le Saint-Sacrement. C'est le pain de vie dans cet évangile, parce que Jésus, vraiment, quand il parle du pain de vie, là, il en parle d'une manière très claire, il est très eucharistique dans ce passage, même s'il n'a pas encore opéré la dernière scène à ce moment-là de son récit. Là, il descend de la montagne et il veut parler, il veut faire la sélection parmi ses disciples. Et vraiment, le pain de vie, c'est le thème qu'il a choisi pour cela. Il lui dit « Mangez ma chair ». C'est pas, en grec, la chair, c'est pas le corps, c'est deux termes différents. Le corps, c'est global, c'est l'ensemble des membres. Tandis que la chair, c'est vraiment, c'est l'ADN, ce qui qualifie l'identité biologique de quelqu'un. Et là, on pourrait dire que sa chair, manger sa chair, ça signifie entrer dans une relation complètement personnelle avec lui. À savoir que lorsque nous communions à l'Eucharistie, c'est pas du divin indifférencié que nous recevons. C'est pas une énergie pure qui habiterait au-delà du cosmos et qui viendrait à nous sous forme d'Esprit Saint. Non, non. C'est Jésus. C'est sa signature ADN. C'est sa chair. Mais sacramentelle. Alors on aura beau chercher une signature biologique ADN, on n'en trouvera pas. Mais c'est sa personne au sens le plus fort du terme. Et c'est la personnalité humaine, c'est la nature humaine du Christ, sa chair. Évidemment, par définition. Il s'est fait homme afin que nous puissions entrer par cette porte qui nous est connaturelle, l'humanité, pour accéder à sa divinité. C'est vraiment très beau, mais ça réclame, on le devine tout de suite, une intimité, un cœur à cœur, un don de soi, une mort à soi-même, parce que l'amour nous fait toujours mourir à nous-mêmes, l'amour véritable. L'amour de soi, lui, ne fait que nous renforcer, mais en même temps, il nous plonge dans une grande solitude. Jésus, lui, au contraire, nous apprend le véritable amour, le bel amour. Le pain, également, le symbole du pain, c'est l'enseignement du Christ. Or, l'enseignement du Christ, il a quelque chose de particulier par rapport à tous les autres auteurs de la Bible. Tandis que les autres parlent de quelqu'un qui n'est pas eux-mêmes, par définition, de temps en temps, ils peuvent dire un petit mot sur ce qu'ils font, mais enfin, ça s'arrête là. Jésus, tout son enseignement, parle de lui. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu fait homme et qu'il est venu nous montrer la voie. Et là aussi, on voit que dans les enseignements du Christ, il y a cette espèce de signature ADN qui correspond à la communion à sa chair. Donc, manger le pain de vie, Jésus est vraiment le pain de vie quand il enseigne. Autant qu'il est ce pain vivant que nous mangeons au moment de la communion. Le sang, lui, c'est le symbole de la vie dans la Bible. Et ici, le sang du Christ, c'est le symbole de la vie éternelle, celle qui réside dans le Christ et qui qualifie la divinité. Dieu est le seul à avoir la vie en lui-même. Il y a donc deux choses, cette vie éternelle qui est participée par les trois personnes divines et auxquelles nous sommes invités, eh bien, nous aussi, à entrer, à vivre, par définition, de cette vie-là. Entrer dans la communion trinitaire, parce que la vie est dans les trois personnes de la Trinité. Et la communion, dit Jésus, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. C'est extraordinaire. Nous n'avons jamais, au niveau de l'amour humain, un tel degré de communauté. Là, on ne fait plus qu'un avec le Seigneur, sans être détruit au niveau psychologique. On a toujours notre personnalité. Et pourtant, si on le fait vraiment dans l'amour, dans les conditions que Jésus demande, eh bien, notre âme se perd en Dieu comme la goutte d'eau dans la mer de sa divinité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Demeurez en Jésus. C'est la belle promesse, l'invitation que le Seigneur nous fait dans la communion. La communion, c'est un échange, ça doit être idéalement un échange des cœurs. Donc, je répète, quand on communie, on ne vient pas chercher une espèce d'énergie qui rend tout puissant, une énergie anonyme qui pourrait appartenir à n'importe qui est très tout à fait considérable, mais qui est anonyme. Non, on communie au cœur de quelqu'un, à l'amour de quelqu'un, à Jésus bien sûr, et à travers lui au Père et à l'Esprit Saint. Pour parler du Saint-Sacrement, il faut évoquer la dernière scène. Alors là, il faut passer plusieurs chapitres pour arriver juste avant la Passion. Vous vous souvenez, ça commence par le lavement des pieds. Jean est le seul à mentionner ce geste. Et juste au moment où il a fini le lavement des pieds, eh bien, s'effectue la communion. Jean ne nous parle que de la communion de Judas, mais elle implique aussi celle des autres disciples. Le lavement des pieds. Les auteurs, même moi, j'ai longtemps cru que c'était quelque chose de séparé de la scène, de la communion. Mais ça ne l'est pas. Ça fait partie intégrante de la dernière scène. Et le lavement des pieds, il faut le rapprocher de l'onction de Béthanie pour le comprendre. Ce n'est pas un geste de purification. Jésus le dit lui-même à Saint-Pierre. Et quand Pierre proteste, s'il faut ça, lave-moi entièrement pour être sauvé. Jésus lui dit, vous êtes tous purs. Mais non pas tous. Et il parle évidemment de Judas, là. Et il y a cette... c'est pas une purification avant la communion. C'est pas non plus un rite d'hospitalité, puisqu'on est en plein milieu du repas, comme pour l'onction de Béthanie, ça se fait au milieu du repas. Donc le geste d'hospitalité, le rite de purification, il se fait toujours au début, avant qu'on se mette à table. Donc c'est un geste qui a une autre portée. Qu'est-ce que fait Marie, Madeleine, lors de l'onction de Béthanie, en faisant cette onction de parfum sur les pieds de Jésus? Elle dit à Jésus tout son amour. Elle épanche son cœur et au-delà de l'amphore matérielle qu'elle tenait, c'est son propre cœur et c'est son parfum d'amour qu'elle verse sur le cœur de Jésus. Eh bien Jésus, je ne dis pas qu'il s'inspire du geste de Marie-Madeleine, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, il va reproduire un geste similaire avec ses disciples. Et c'était dit dès le premier verset. Sachant que son heure était arrivée, il les aima jusqu'à l'extrême. Ça veut dire, dans la totalité, le mot télos en grec, c'est l'accomplissement total, tout est achevé, tout est complet, et c'est un amour fou que ça traduit. Il les aima d'un amour fou. Et le lavement des pieds signifie cela. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Et le lavement des pieds, donc, nous dit l'amour fou de Jésus pour ses disciples et à travers eux pour chacun d'entre nous. Et cet amour fou se concrétise juste après, au moment où il explique son geste du lavement des pieds par la bouchée. Donc, cette communion que nous allons faire, nous allons communier à l'amour fou de Jésus pour nous. C'est admirable quand on y pense un peu, quand on y pense avec le cœur, pas seulement avec la tête. Il y a, au cours du lavement des pieds, mais même après, jusqu'au moment de la communion justement, il y a 4 mentions de Judas. Il est omniprésent dans ce passage, comme dans l'onction de Béthanie d'ailleurs. Ça nous dit quoi, ça? Quelle est la leçon que le Seigneur veut nous donner à travers cette présence du diable? Parce que lorsqu'il communie à l'Eucharistie, eh bien Judas, eh bien le diable entre en lui. Ce n'est pas au cœur de Jésus qu'il communie, c'est au cœur du démon. Le Christ lave les pieds à Judas comme il a lavé les pieds à tous les autres. Et il n'interrompt pas son geste, tout en sachant qui est Judas, ce qu'il va faire. Il y a l'Eucharistie ne nous préserve pas du contact du mystère du mal. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une espèce de médicament qui nous permettrait d'être immunisés par rapport au mal moral, au mal spirituel, et d'être invincibles par rapport aux démons. Rien à voir. L'Eucharistie, c'est au contraire nous faire entrer dans la fragilité de l'amour du Christ qui est mort sur une croix, livré par ce Judas. Il lui a pourtant montré tout l'amour qu'il avait pour lui. Ça veut dire que l'Eucharistie, si on ne le reçoit, si on ne la reçoit pas dans la disposition requise, c'est-à-dire dans un cœur aimant, on ne doit pas prendre. Eh bien, elle n'a aucun effet, voire pire, elle peut se retourner contre nous. Il faut aimer au moment de la communion, parce que la communion est un geste de pur amour. C'est l'onction de Béthanie, c'est Marie, là pour prendre un personnage qui nous représente mieux que Jésus, c'est Marie, au moment de cette onction de Béthanie, qui aime le Seigneur. C'est la disposition que nous devons avoir dans chaque communion. La communion nous met dans un état d'amitié avec Dieu. C'est quelque chose, je ne vous appelle plus serviteur. Ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Dans l'Ancien Testament, eh bien, les croyants de l'Ancien Testament étaient des serviteurs, sauf quelques-uns qui étaient déjà des amis de Dieu, mais si rares. Nous avons la chance, sans aucune distinction, par le baptême et par ces communions amoureuses au corps et au sang du Christ, nous avons la chance de ne plus être dans la position de serviteur par rapport à Dieu, mais dans la position d'ami. Voilà tout ce que perd l'Eucharistie. Alors, ayons confiance en cette Eucharistie. Aimons le Seigneur dans l'Eucharistie.